Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Nous arrivons au numéro 818 du catéchisme de l'Église catholique et où il est question des personnes nées dans des communautés issues de ruptures, soit de schismes, soit d'hérésie. Et donc on pense aux enfants nés dans le protestantisme, ceux qui sont nés dans l'orthodoxie. Est-ce que les catholiques doivent reprocher à ces enfants nés dans ces églises séparées d'être responsables de la situation, ou est-ce que il faut dire bon bah c'est un péché d'une autre époque, revisitons les choses. Comment faut-il être par rapport à ces personnes nées dans des églises séparées?
Eh bien, évidemment, on doit tenir compte au maximum des circonstances, puisque dans un acte humain, il y a non seulement l'intention, l'objet et la finalité, mais aussi les circonstances. Et les circonstances peuvent diminuer fortement la responsabilité de quelqu'un. Et c'est le cas, bien sûr, d'enfants qui sont nés dans un cadre dans lequel on leur a toujours enseigné telle et telle, je dirais, chose qui concerne, par exemple, les catholiques, en disant que ce sont des papolâtres ou des expressions désagréables du même type. Ben, comment voulez-vous qu'un enfant qui a entendu ça toute son enfance ne finisse pas par en être imbibé? Et c'est malgré lui, je dirais, il n'y a pas comme une volonté initiale de rupture par rapport à ce donné qui était ce cadeau qui lui avait été fait dans l'Église catholique. Alors, du coup, l'Église, eh bien, est pleine de mansuétude par rapport à tous ces enfants qui ont une bonne volonté. Et elle le manifeste en particulier dans la communion eucharistique. Vous savez que la communion eucharistique n'est pas accessible normalement à quelqu'un qui n'est pas en communion avec l'Église catholique. Et cette communion eucharistique est particulièrement dans la possibilité d'être donnée à des membres des églises orthodoxes, des églises donc orientales, qui ont la même foi eucharistique que l'Église catholique. Donc ça, il y a une certitude que, a priori, un Éthiopien, un Copte, un Syriaque, un Malabar, un Malankar qui viennent d'Inde, ont la même foi eucharistique. Et là, il y a déjà donc une certaine convenance à, loin de leur pasteur, qu'ils puissent communier à nos eucharisties. On leur offre l'hospitalité eucharistique. Par contre, pour les autres, je dirais, il faut une vérification. Et c'est plus difficile à obtenir, parce que parfois, les gens ne connaissent pas quelle est exactement notre situation et notre coutume par rapport à cela, quels sont nos dogmes. Et donc, il faut être assez prudent et considérer que, d'abord, pour qu'il y ait communion, il faut que ce soit un acte humain éclairé, une demande libre d'hospitalité eucharistique avant le début de la messe, pour que les personnes puissent vraiment s'avancer en toute lumière. Il faut une raison grave pour délivrer l'Eucharistie à des personnes qui n'ont pas, je dirais, la même communion avec nous. Par exemple, l'assistance à l'assemblée dominicale, puisque tout chrétien est appelé au devoir du dimanche. Le dimanche est une convocation de Dieu, et donc il y a vraiment une raison grave. Il y a une juridiction interne catholique, il faut l'autorisation de l'évêque local, parce que rien ne se passe, comme dit saint Ignace d'Antioche, sans l'accord de l'évêque. Hein. Et l'évêque a sa responsabilité dans toutes les eucharisties qui sont célébrées sur son diocèse. Et c'est ce que je disais à l'instant, c'est surtout l'éloignement des ministres désunis. S'ils sont loin, ça veut dire que ces fidèles ne peuvent pas avoir accès à leur scène ou à leur eucharistie. Donc ils peuvent leur faire cette demande, mais il faut qu'il y ait, et c'est la condition sine qua non, sans quoi il ne peut pas y en avoir, la même foi eucharistique. Et il faut en même temps les dispositions intérieures au sacrement de la réconciliation au niveau moral. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un s'approche en disant « je voudrais communier » que nécessairement il est en disposition morale pour recevoir. Alors, vous avez le très beau texte de Paul VI qui aide beaucoup dans la considération de ce qu'est l'Eucharistie. C'est le credo au peuple de Dieu que Paul VI avait écrit en 1968, qui dit en quelques mots quelle est la foi eucharistique catholique, en trois paragraphes, et tout prêtre a intérêt à avoir à portée de main, je dirais, ces trois paragraphes de la profession de foi de Paul VI, pour que s'il a quelqu'un qui viendrait d'une autre confession, qui n'est pas orientale, et dont il ne sait pas trop ce à quoi il tient, eh bien, de lui dire, lisez cela, si vous êtes d'accord, ça veut dire que vous pouvez demander une hospitalité ponctuelle, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire une hospitalité régulière, sinon ça demanderait un vrai proposition de conversion, d'aller vers l'unité de l'Église catholique.
Ça, c'est possible de rentrer de nouveau dans l'Église catholique, par exemple, si on est protestant, si on est orthodoxe,
Oui, il suffit de renoncer d'une certaine manière à l'ancienne appartenance. Il y a une levée d'excommunication, si vous voulez, puisque en plus, ce ne sont pas des causes réservées. Donc un simple prêtre, en tout cas en France, un simple prêtre, depuis les décisions de la conférence épiscopale il y a quelques années, peut relever de ce qui n'est pas réservé au Saint-Siège. Donc un schisme, on peut relever une excommunication latée Saint-Ancien.
Au numéro 819, on lit ceci. Au surplus, beaucoup d'éléments de sanctification et de vérité existent en dehors des limites visibles de l'Église catholique. Ça veut dire que on peut trouver donc des traces du Christ ou de la foi chrétienne dans des religions non chrétiennes.
Oui, et d'ailleurs, d'une certaine manière, on a des éléments que l'on appelle des semences du Verbe, semences de vérité, dont parle Saint Justin, et qui sont reprises dans Agentes, un texte du Concile Vatican II, au numéro 11 et au numéro 15, ces semences du Verbe qui continuent à être, je dirais, distribuées à travers tout le monde entier, y compris les non-chrétiens. Cependant, il faut bien faire attention que le mot « semence du Verbe » qui est évoqué par saint Justin, ce sont des principes de connaissance et d'action présents dans la nature humaine. Donc il s'agit beaucoup plus de la loi naturelle ou de la capacité de faire une sorte de théologie naturelle qui est dans la nature humaine en vue du bien et du vrai. Ce n'est pas un ensemble de vérités qui serait révélé. C'est un ensemble de vérités, de règles d'action droites que l'homme peut acquérir tout simplement par sa nature. C'est ça les semences du Verbe, les semences de vérité chez saint Justin. Donc il n'y a pas de révélation automatique. Fides ex auditu, disait saint Paul dans l'Épître aux Romains, la foi vient de ce qu'on l'entend, au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Donc nul ne peut avoir la connaissance, je dirais, des vérités comme la Trinité ou comme l'incarnation, s'il n'y a pas une prédication. Seule la prédication permet à quelqu'un de recevoir ces vérités de la foi. Elles ne sont pas automatiquement distribuées, cachées, comme s'il suffisait de faire un coup de baguette magique et qu'elles se réveillent comme quelque chose d'inné, si vous voulez. Platon a des fois des idées, des, tout à fait caractéristique de sa philosophie, des idées innées, comme si il suffisait de rappeler en quelque sorte quelque chose qui serait enfoui dans la pensée de quelqu'un. Mais non, la foi est toujours nouvelle. Jésus fait toute chose nouvelle dans le cœur de chacun par la prédication. Et on ne peut pas se passer de prédication. Donc il y a une urgence missionnaire. Ad gentes, qui est ce grand texte du Concile Vatican II, invite tous les chrétiens à reprendre la route de l'évangélisation, c'est-à-dire à assumer le fait qu'autour d'eux, il y a des personnes qui n'ont pas la foi ou qui n'ont plus la foi et auxquelles il faut prêcher cette foi tout entière qui sauve.
L'intérêt de rappeler ces éléments de sanctification et de vérité dans ces lieux en dehors de l'Église catholique, donc par exemple dans l'islam ou dans le bouddhisme, c'est de dire que tous ont accès à quelque chose de la vérité et que plutôt que de rejeter tout ce qu'ils portent en eux, il faut essayer de trouver ces éléments de vérité pour les conduire à Jésus-Christ.
Oui, il y a une sorte de confiance en la nature humaine très grande, malgré les failles du péché originel, les failles acquises par les actes mauvais qui ont pu être perpétrés par chacun. Il y a une confiance essentielle dans la nature humaine, même si la grâce est plus importante encore, la nature est plus essentielle. Et dans cette nature, il y a quelque chose de bon. Et au début de la Genèse, c'est dit qu'après la création de l'homme et de la femme, Dieu dit, et cela a été très bon. Donc il y a vraiment des possibilités ce principe de connaissance et d'action dans la nature humaine qui permet de trouver des lieux où on observera que quelqu'un suit la loi naturelle. Et la loi naturelle est connexe à la loi évangélique. On ne peut pas, dans le Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes, on ne sépare pas loi naturelle et loi évangélique. Les deux sont en connexion profonde. Et c'est ça qui donne beaucoup d'assurance, je dirais, à l'évangélisateur, c'est que même quand il rencontre quelqu'un très éloigné, il y a ses racines qui sont bonnes.
Merci, frère Edouard. À bientôt.
À bientôt.